Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Koumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 juin 2023. Il est 17h30, temps universel. Voici le sommaire. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, appelle ses compatriotes à approuver le projet de constitution qui sera soumis à référendum dimanche. Au Nigeria, le bilan du naufrage lundi d'un bateau dans une rivière de l'état de Kouara s'élève maintenant à 106 morts. Au moins 78 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une autre embarcation de migrants au large de la Grèce. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en Chine ce week-end. Il entend amorcer un dégel diplomatique avec Pékin. À suivre aussi les nouvelles économiques et les sports, mais pour commencer, le journal. Au Mali, le président de la transition appelle ses compatriotes à approuver le projet de constitution qui sera soumis à un référendum dimanche. Selon le colonel Assimi Goïta, il s'agit d'un scrutin libre de toute immixtion étrangère. Jacques Aristide.
Je demande aux Maliens de sortir massivement le dimanche 18 juin pour donner raison au projet de constitution en votant oui, a déclaré le colonel Assimi Goïta lors d'une intervention hier dans un stade de Ségou. Le projet de constitution a été fait par les Maliens, a-t-il ajouté, en assurant, malgré un certain nombre de positions, que le texte était le résultat d'un travail consensuel de toutes les sensibilités. Même les Maliens de la diaspora ont été impliqués, mais aucune personne étrangère n'a été associée à sa rédaction, a-t-il déclaré. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 ont fait du rétablissement de la souveraineté nationale leur mantra. Ils ont rompu l'alliance avec la France et se sont tournés militairement vers la Russie. La souveraineté est un des grands principes de la Constitution soumise ce dimanche à référendum. La Constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier de continuer à diriger jusqu'en mars 2024 ce pays confronté à la propagation djihadiste et à une crise multiforme.
Par ailleurs, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le président russe, Vladimir Poutine, se sont entretenus ce mercredi. Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d'intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires, écrit le colonel Goïta sur son compte officiel Twitter. Lors de cet entretien, à l'initiative de la partie malienne, les deux dirigeants ont accordé une attention particulière aux relations commerciales et économiques, dont la livraison de céréales, d'engrais et de carburant par la Russie au Mali, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé mardi avoir ouvert une enquête après la diffusion de vidéos dans lesquelles apparaissent des hommes armés en civil accusés de s'en être violemment pris à des manifestants. C'était lors des troubles des 8 juin suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Ses partisans accusent le camp présidentiel d'avoir payé ses nervis pour prêter main forte aux forces de l'ordre et mater les manifestants. Il appartiendra à la justice du Sénégal d'établir la vérité, a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom. Au Nigeria, le bilan du naufrage d'un bateau qui a coulé lundi dans une rivière du centre-nord s'élève désormais à 106 morts. Les recherches de survivants se poursuivent selon la police, Yakuba Ouedraogo.
Le bateau qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage a chaviré dans le district de Patigi, dans l'état de Kouara. Une partie du bateau s'est écroulée et l'eau a pénétré le navire, ce qui l'a fait chavirer, a indiqué le porte-parole de la police régionale au Kasami Ajayi. Le président Bola Ahmed Tinubu a présenté ses condoléances aux familles, déclarant que son gouvernement cherche à améliorer la sécurité du transport fluvial. Cet accident est le dernier en date dans ce pays où les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Le mois dernier, 15 enfants se sont noyés et 25 autres ont disparu après le chavirement d'un bateau surchargé dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest. L'Autorité nationale de régulation des cours d'eau a interdit en vain la navigation de nuit et les surcharges de bateaux.
Un drame similaire, au moins 78 personnes se sont noyées dans un autre naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large de la péninsule du Péloponnèse. En Grèce, c'est l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. Michel Joseph.
Le bateau de pêche à bord duquel se trouvaient les migrants a chaviré au large de la péninsule du Péloponnèse, ont annoncé les garde-corps grecs. Une vaste opération de sauvetage entamée ce matin a permis de secourir 104 personnes. Les autorités grecques affirment que des survivants leur ont assuré qu'ils étaient au moins 750 à son bord. Outre les patrouilleurs de la police portuaire, une frégate de la marine de guerre, un avion et un hélicoptère de l'armée de l'air et 6 bateaux participaient aux recherches d'éventuels survivants. Selon des informations des autorités, le navire était parti de Libye à destination de l'Italie. Pour le moment, aucune information n'a été donnée sur la nationalité, le sexe et l'âge des victimes. La Grèce a connu de nombreux naufrages d'embarcations de migrants, mais il s'agit ici du bilan le plus lourd depuis le 3 juin 2016, où au moins 320 personnes ont été englouties en Méditerranée.
8 policiers kényans ont été tués dans la destruction de leur véhicule par un engin explosif improvisé, a indiqué le commissaire régional du nord-est du Kenya. L'attaque a eu lieu mardi dans le comté de Garissa, dans l'est du Kenya, une région proche de la Somalie où les Shebab mènent une insurrection contre le gouvernement de Mogadiscio. Depuis 2011, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers revendiqués par les Shebab depuis que son armée est intervenue en 2011 en Somalie pour combattre les islamistes somaliens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend en Chine ce week-end, une visite qui avait été reportée en février après l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien des États-Unis. M. Blinken entend amorcer un dégel diplomatique avec Pékin. Eric Manirakiza.
M. Blinken va rencontrer des hauts responsables chinois et discutera de l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes afin de gérer de façon responsable la relation sino-américaine, indique ce mercredi un communiqué du département d'État. Les relations restent tendues en raison de plusieurs dossiers, les liens entre les États-Unis et Taïwan, la rivalité dans les technologies, le commerce ou encore les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale. Le ministre des Affaires étrangères chinois a souligné que Washington devait respecter les préoccupations chinoises, cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser, au nom de la concurrence, de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine. La venue de M. Blinken ce week-end sera la première visite d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis le voyage de son prédécesseur Mike Pompeo en octobre 2018.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a plaidé ce mercredi pour un soutien militaire accru de l'Alliance aux forces ukrainiennes afin de leur permettre de poursuivre leur contre-offensive contre la Russie. Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive de grande envergure. Elle vient de commencer et nous ne savons pas si elle constituera un tournant dans la guerre, mais les Ukrainiens progressent pour libérer des territoires, a-t-il souligné, ajoutant que la chose la plus évidente à faire est de s'assurer qu'ils aient des armes et des approvisionnements pour continuer à mener l'offensive. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti ce mercredi que la Turquie ne satisfera pas nécessairement les attentes de la Suède, candidate à l'entrée dans l'OTAN lors du sommet de l'Alliance Atlantique en juillet. Pour que nous puissions nous conformer à ces attentes, il faut tout d'abord que la Suède fasse sa part, a ajouté le chef de l'État à l'attention des journalistes présents à bord de son avion à son retour d'une visite officielle en Azerbaïdjan. M. Erdogan bloque depuis 13 mois l'entrée de la Suède dans l'OTAN, lui reprochant notamment sa bienveillance envers les militants kurdes réfugiés sur son sol. La France annoncera de nouveaux financements pour la reconstruction des infrastructures civiles en Ukraine lors d'une conférence internationale qui se tiendra le 21 juin à Londres, a annoncé ce mercredi la ministre française des Affaires étrangères. Il n'est pas trop tôt pour s'occuper de l'après, c'est ce que nous faisons et depuis des mois déjà, a souligné Catherine Colonna, rappelant que la France a été le premier pays du groupe G7 à nommer un envoyé spécial dédié à ce sujet. La France réfléchit en parallèle au reste règles de sécurité pour ses entreprises, l'Ukraine restant pour l'heure un pays en guerre, a également affirmé Mme Colonna. Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a indiqué ce mercredi avoir pu rendre visite à 1500 prisonniers de guerre détenus de part et d'autre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour les prisonniers de guerre et leurs familles qui ont pu partager des nouvelles, l'impact est incommensurable, a déclaré Ariane Bauer, directrice régionale du CICR pour l'Europe et l'Asie centrale, lors d'un point de presse. Le CICR et ses partenaires ont jusqu'à présent transmis environ 2500 messages personnels entre les prisonniers de guerre et leurs familles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Au Gabon, le gouvernement a inauguré lundi le centre de pêche de Mayumba dans la Nyonga et a offert de nouveaux équipements aux mareyeuses. Ce centre d'appui à la pêche artisanale dispose d'un pool administratif et technique de 10 pièces, de 16 places de vente, de 4 postes d'écaillage, d'un grand parking, d'une chambre froide et d'une machine à glaçons. Au Niger, le commerce du sel dans le Sahara, autrefois florissant, commence à dépérir. Le voyage à travers les dunes de sable est éprouvant et périlleux, la région se trouvant aux portes du Tchad et de la Libye, où trafiquants et criminels profitent de la porosité des frontières pour voler les commerçants. Bien avant l'uranium et l'or, le sel a été pendant longtemps la principale richesse extraite du sous-sol du Sahara nigérien. Terminons par Malabo qui a ordonné la saisie préventive de 80 milliards de francs CFA d'actifs de 4 entreprises brésiliennes. C'est la suite d'un différend datant de 2018 sur la saisie de plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux par les autorités brésiliennes dans les bagages d'une délégation de la Guinée équatoriale qui n'était pas en mission officielle, mais accompagnait le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Début ce mercredi des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Oui, 3 rencontres au programme. Dans la première, grâce à sa victoire 3-2 devant le Soudan du Sud, la Gambie remonte à la 2e place du groupe G en attendant le match Mali-Congo ce week-end. À suivre toujours ce soir, Sao Tomé et Principe et Guinée-Bissau et Guinée-Égypte. Cette dernière rencontre délocalisée à Marrakech, faute de stade homologué en Guinée, est une lutte pour la qualification mais aussi une bataille pour la suprématie dans le groupe D. Les deux équipes comptent 9 points chacune.
On l'a appris aujourd'hui, Fatma Samoura partira de la FIFA en fin d'année.
La Sénégalaise, secrétaire générale de la FIFA, première femme et première africaine, a devenu numéro 2 de l'instance mondiale du football en 2016. Quittera ses fonctions en fin d'année pour consacrer plus de temps à sa famille. L'annonce est faite par l'organisation du Ballon Rond. Après une carrière aux Nations Unies, Fatma Samoura, 60 ans, a été nommée en mai 2016 dans la foulée de l'élection de l'Italo-Suisse Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Elle a contribué à restaurer sa crédibilité après une cascade de scandales, souligne la FIFA dans un communiqué.
Parlons maintenant de Kylian Mbappé, dont la saga se poursuit.
L'attaquant français affirme être heureux de rester la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Dans un entretien publié ce mercredi par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé assure ne pas avoir demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid. J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat, courtisé par le passé par le Real Madrid. Mbappé a annoncé mardi à l'AFP n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec son club, avec lequel il reste sous contrat jusqu'en 2024. Cette décision a rouvert tous les scénarios sur son avenir, dont un possible départ dès cet été pour éviter un départ sans indemnité dans un an.
Terminons cette page sportive avec le président brésilien qui n'est pas du tout content de la qualité du football de son pays.
Le football brésilien ne va pas bien, nous n'avons plus le meilleur football du monde. C'est ce qu'a estimé Luis Ignacio da Silva parlant de son pays quintuple champion du monde. Le président brésilien a critiqué l'absence de sélectionneur à la tête de la Seleção. La Confédération brésilienne de football n'a toujours pas nommé le successeur de Tite, qui a quitté le poste de sélectionneur en décembre après l'élimination du Brésil en quart de finale par la Croatie. L'Italien Carlo Ancelotti est le choix numéro un de la fédération, mais ce dernier dit vouloir honorer le contrat qui le lie au Real Madrid jusqu'en juin 2024. Depuis le cinquième titre décroché en 2002 au Mondial disputé en Corée du Sud et au Japon, le Brésil a été éliminé à 4 reprises en quart de finale et une fois en demi-finale lors du Mondial disputé à domicile en 2014.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Tchad, le procureur Wambel Associa de Sahar, ville du sud du pays, a tenu un point de presse mardi pour révéler une tentative présumée de corruption en rapport avec l'attaque du 9 février 2022 contre le village de Sandana. Des assaillants armés à moto avaient abattu 10 habitants de ce village et blessé 4 autres. Après enquête, plusieurs suspects ont été placés en détention. Dans un entretien avec Timothée Donangmaï, le procureur Wambel Associa affirme qu'une personne a tenté de monnayer la libération des 10 prévenus de cette affaire.
Cet individu venu d'Ndjamena, qui prétend être le parent de ceux qui sont inculpés dans le cadre du dossier Sandana, m'a contacté et puis est venu à mon bureau pour solliciter effectivement, comme vous le dites, la libération de 10 membres de sa communauté incarcérés dans le cadre de cette procédure. Il fait cette sollicitation en contrepartie d'une somme d'argent, 3 millions par personne, ce qui fait pratiquement 30 millions pour les 10 inculpés, sans aucune procédure, c'est-à-dire une libération qui ne respecte aucune forme procédurale. Et son acte, comme vous le savez tous, est un acte de corruption, ce qui nous a en fait irrité et entraîné donc le déclenchement d'une procédure contre cet individu, notamment le nommé Tahir Agar.
Selon vous, pourquoi s'est-il senti suffisamment en confiance pour vous faire cette proposition assurément illégale?
Vous savez, les gens, ils pensent toujours que l'argent peut suffire à tout régler. Je peux dire que c'est parce qu'ils pensent que la justice, ça s'obtient à travers les moyens dont on dispose. Ils pensent aussi que la justice, aujourd'hui, c'est comme une boutique au sein de laquelle on s'y rend pour prendre l'article qu'on souhaite et on en ressort. Et c'est cette idée que je qualifie d'idée de banditisme qui les a conduits en fait vers nous avec cet espoir de pouvoir obtenir la libération de ces personnes inculpées.
Il y a déjà eu plusieurs affaires comme le massacre de Sandana. Les Tchadiens ont l'impression que la justice tarde à se mettre en route. Que pouvez-vous dire à ce sujet?
C'est une question de procédure, mais aussi une question des moyens. C'est un massacre et des personnes ont été arrêtées. La procédure voudra qu'une enquête minutieuse soit faite sur la commission des faits. Le dossier est parti d'une enquête préliminaire au parquet d'instance qui a ouvert une information judiciaire. Le juge a investigué et la procédure est revenue pour règlement définitif au parquet d'instance. C'est reparti. Et à ce moment, le dossier est en phase de sa transmission au parquet général. Et les autres États vont suivre pour que tous ceux qui sont inculpés soient jugés. Et donc, il ne peut pas s'agir d'un retard entretenu ou voulu, mais c'est des contraintes d'ordre procédural, mais aussi des contraintes liées aux moyens qui font que cette procédure, ces différentes procédures, ne sont pas jugées. Mais toutefois, il faut noter qu'en ce qui concerne Sandana 2, le dossier est déjà jugé. Les responsabilités ont été situées. Ceux qui sont reconnus coupables ont été condamnés et donc en ce moment ils purgent leur peine à la maison d'arrêt et pour ce qui est de Sandana 2, le dossier également va être transmis au parquet général qui sera aussi suivre les autres procédures pour que le jugement devienne effectif.
C'était Wambel Associa, procureur de la ville de Sahar, dans le sud du Tchad.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Nigeria, du fait de la suppression des subventions sur le carburant, certains travailleurs sont obligés de réduire les jours de travail à 3 par semaine. Les stations-service enregistrent de faibles ventes pendant que les gouverneurs des États fédéraux apportent leur soutien à la décision du président Bola Ahmed Tinubu. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La subvention sur les carburants a permis de maintenir très bas les prix de l'essence pendant des décennies. Depuis l'annonce de la suppression de la subvention, les prix ont presque triplé, provoquant la colère des travailleurs et la flambée des coûts de transport. Ceux qui habitent en banlieue sont fortement touchés par l'augmentation des frais de transport et les langues se délient.
Ce n'est pas facile. La seule chose est que j'ai réduit mes journées de travail. Au lieu de 5 jours, je viens ici 3 jours ouvrables dans la semaine, juste pour réduire les frais. C'est la vérité, je dois l'avouer.
Ça m'affecte beaucoup. D'habitude, je vais au travail les lundis, mardis et mercredis, parfois même les jeudis. Mais récemment, j'ai limité juste du lundi au mercredi. Puis le jeudi et le vendredi, je travaillais de chez moi. Cela a rendu les gens vraiment agressifs.
Les travailleurs des petites entreprises sont touchés, ainsi que des millions de ménages qui dépendent de générateurs à essence pour avoir l'électricité. Akachuku John travaille pour une entreprise de construction à Abuja.
Mon transport pour aller au travail a augmenté de 200% et ce que j'ai fait, c'est juste d'écrire au bureau. Le bureau doit savoir ce qui se passe et ajouter quelque chose sur le salaire pour que nous puissions faire face, mais ce n'est pas du tout facile. C'est comme si tout mon salaire du dernier mois est parti dans les transports. Mais voyons ce que le bureau pourra faire, comme ils ont promis, une réponse.
Avec cette hausse du prix de l'essence, les stations-service sont presque désertes dans la capitale fédérale. Le carburant est disponible, mais les automobilistes achètent beaucoup moins d'essence comme à la station-service First Amina de Guarimpa. Sadiq Ibrahim contrôle les activités dans cette station.
Cet endroit était très fréquenté. Il y avait de l'embouteillage ici pour les gens qui venaient acheter du carburant. Parfois, les voitures n'avaient même pas d'espace pour se garer à cause d'une longue file d'attente. Maintenant, vous pouvez voir, il n'y a personne. Vous pouvez venir, vous garer et acheter du carburant et vous repartez. Ce n'est pas censé être comme ça.
Le nouveau gouvernement a promis en échange des investissements massifs dans les infrastructures de transport, l'éducation, l'électricité, des soins de santé et d'autres services publics pour améliorer la qualité de vie sans donner de calendrier. Pour Divine Prince, informaticien, l'augmentation des prix ne touche pas seulement l'essence et le transport.
Tout est affecté, pas seulement les transports. Là où nous avons l'habitude d'acheter des choses en ville, maintenant le prix est 10 fois plus. Tout est problème. Prendre un taxi est devenu un problème. Je préfère les véhicules de transport en commun, parce que le prix du taxi a doublé maintenant. Pour une distance de 1 500, ils vous diront 3 000 naira. Donc, en fait, je sais que tout le monde est affecté, mais qu'allons-nous faire? Nous allons survivre.
Dans des États comme Edo et Kwara, les autorités ont même annoncé la diminution des jours de travail à 3 dans la semaine pour aider leurs travailleurs de la fonction publique à faire face à l'augmentation des coûts de l'essence et la montée en flèche des frais de transport. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Avec quel partenaire le Burkina Faso compte-t-il mener sa lutte contre le terrorisme? C'est une question qui taraude les esprits dans ce pays qui a connu dernièrement des tensions diplomatiques avec la France, ancienne puissance coloniale. Ouagadougou essaye de se rapprocher vers d'autres potentiels partenaires. Les avis sont divisés, mais certains analystes pensent que le pays ne peut compter que sur lui-même. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Manifestation de rue, drapeau russe, à la faveur du second coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Des populations ont plusieurs fois demandé la rupture des relations avec la France au profit d'autres partenaires tels que la Russie. La suite, on la connaît. Les relations se sont détériorées entre la France et le Burkina. Le pays s'est rapproché davantage de la Russie et d'autres partenaires. Pour des acteurs de la vie publique, comme Aziz Dabo, il faut y aller avec prudence.
L'ouverture vers d'autres partenaires, ce n'est pas forcément mauvais, mais il faut aussi prendre en considération un certain nombre de choses. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous apporter? Est-ce qu'il faut aller pour aller? Il y a toute une histoire qui nous lie à ce pays. La France a formé beaucoup de soldats burkinabés. Il y a des Français qui résident au Burkina, il y a des Burkinabés qui résident en France.
Ce militant de la société civile, Serge Bayala, a déjà organisé des manifestations demandant le départ des forces françaises.
Bien évidemment, le Burkina Faso, s'il quitte la France, trouvera des alliés locaux, ouest-africains, africains et extra-africains. Que ce soit la Russie, ce soit la Chine, le Burkina ne prendra pas un plaisir béat fondé par l'orgueil d'une souveraineté ou d'un nationalisme pour se fermer le privilège et ou l'opportunité de nouer des partenariats parce qu'il en perd. Si on en perd, il faut en gagner.
Mais pour d'autres, les dirigeants devraient davantage s'assumer et ne pas toujours trouver un bouc émissaire à tous les malheurs de la région. C'est le cas du chroniqueur Ivaris Consimbo.
La France qu'on a jugée impérialiste est laquelle qui porte tous les malheurs. Et je pense que c'est le ressentiment colonial. C'est normal. On a eu un passé douloureux, c'est certes. Mais il ne faut pas mâcher ça, rabâcher ça pendant les siècles et les siècles. À un moment donné, il faut s'asseoir, situer les responsabilités et prendre des décisions dans le sens de nos intérêts. C'est ce qui manque. Sinon, la souveraineté, on l'a. Ceux qui ont les plus gros moyens de transport au monde, c'est les Russes. Ils attendent quoi pour nous aider? Les Russes, ils font des affaires. Ils n'ont pas une culture de coopération. Donc ça ne peut pas... Que le plan sécuritaire ne va pas s'améliorer, le plan économique non plus. Il ne faut pas se voiler la face.
De l'avis de l'ancien diplomate Ismaël Diallo, il ne faut pas se faire des illusions et qu'il faudrait d'abord compter sur soi-même.
Il ne faut pas s'imaginer qu'un pays quelconque, je dis bien quelconque, peut venir faire notre bonheur ou peut venir trouver des solutions à nos problèmes. C'est impossible. On n'a pas le choix que de compter sur nous-mêmes d'abord. Et les autres viennent en appoint.
Fin mai, devant les députés, le Premier ministre a annoncé que le Burkina a renforcé ses relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Apollinaire Kyelem de Tambela a avoué que des partenaires ont refusé au Burkina de vendre des armes et que pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Lamine Traoré pour VOA Afrique. Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le président des États-Unis, Joe Biden, appelle les pays membres de l'OTAN à contribuer davantage au budget et aux activités de l'organisation. C'était lors d'une réunion mardi avec le chef de l'Alliance Atlantique avant le sommet de juillet qui sera dominé par le conflit en Ukraine et sur la personne qui va diriger l'OTAN après le départ de son chef actuel, Jens Stoltenberg, plus tard cette année. Anita Powell, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Alessandrine Ollonion.
Le président Joe Biden a souligné mardi l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe en rencontrant le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et en annonçant une aide militaire supplémentaire de 325 millions de dollars avant le sommet annuel des membres de l'OTAN qui se tiendra dans la capitale lituanienne en juillet prochain. Le chef d'État américain a salué le travail de l'OTAN, mais a également exhorté ses 31 membres à faire davantage pour respecter l'engagement pris en 2014 de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense.
Nous avons renforcé le flanc oriental de l'OTAN. Nous avons clairement indiqué que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Je le répète, l'engagement des États-Unis à l'égard de l'article 5 de l'OTAN est solide comme le roc. Lors du sommet qui se tiendra en Lituanie le mois prochain, nous poursuivrons sur cette lancée et veillerons à ce que les alliés consacrent suffisamment d'argent à la défense, soit les 2%. Il ne s'agit pas seulement d'un sommet, mais d'un objectif essentiel.
Jens Stoltenberg, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, a déclaré que le sommet de juillet se concentrerait sur la manière dont l'OTAN pourrait renforcer son soutien à l'Ukraine, qui a réussi à éviter une prise de contrôle par la Russie et a récemment lancé une contre-offensive.
Le soutien que nous apportons ensemble à l'Ukraine fait maintenant la différence sur le champ de bataille en ce moment même, parce que l'offensive est lancée et les Ukrainiens progressent. Il est encore tôt, mais ce que nous savons, c'est que plus les Ukrainiens seront en mesure de libérer des territoires, plus ils auront de poids à la table des négociations.
Une chose que l'Ukraine souhaite ardemment.
Je pense que ce qui est très important, c'est notre avenir au sein de l'Union européenne. Et l'Ukraine est prête à faire partie de l'OTAN.
C'est peu probable, selon les analystes. Michael Kimmage est professeur à l'Université catholique et senior au Centre d'études stratégiques et internationales.
Ce n'est pas que l'affaire soit close. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour un soutien fort de l'OTAN à l'Ukraine, peut-être pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à l'avenir. Mais il y a encore beaucoup de cases à cocher avant que cela ne devienne une perspective réaliste.
Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat, a déclaré mardi que Jens Stoltenberg lui avait dit qu'il avait invité des représentants du Japon et de la Corée du Sud, pays non membres de l'OTAN, au sommet qui se tiendra en Lituanie.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Un merci particulier à Peter Hanley qui a assuré la mise en onde. Au micro, Mamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.